Je me fais un plaisir de présenter ici Valérie Masson-Delmotte, qui est venue nous parler des archives du climat et de la variabilité et changement climatique. Alors Valérie Masson-Delmotte, elle est directeur de recherche au CEA, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Elle s'occupe des archives du climat. Elle est beaucoup intervenue dans les débats sur le climat qu'il y a pu y avoir ces dernières années. Elle est rédactrice d'une partie du rapport du GIEC, et en particulier la partie paléoclimat actuellement. Elle est en train de travailler sur la nouvelle mouture du rapport qui sera disponible, j'imagine, dans 2 ans peut-être, dans un an ou deux.
Septembre
2013, donc dans un an, et qui est en phase donc de relecture. Elle s'est beaucoup investie dans la discussion aussi sur le climat. Elle a écrit plusieurs livres de vulgarisation. En particulier, elle a écrit des livres aussi pour les enfants sur le climat. Donc il y en a un, si j'avais pas des lunettes qui permettaient de lire, qui s'appelle donc Atmosphère, quel effet de serre, aux éditions Le Pommier. Et puis aussi aux éditions Le Pommier, alors là, ça, je pense que c'est pour les plus grands, Climat, le vrai et le faux, donc qui est paru en 2011, justement, au moment où il y avait des débats importants. Alors, s'intéresse actuellement, elle a un projet de recherche sur les archives du climat au Groenland, sur l'optimum glaciaire. Je ne sais pas si tu vas nous en parler, mais sur l'optimum glaciaire, donc à l'époque des Vikings, en fait, parce que tout le monde dit, oui, à l'époque des Vikings, il faisait très chaud au Groenland, puisqu'on dit Greenland. Donc elle a voulu savoir ce qui était vrai là-dedans et a regardé, donc et mis au point un projet pour regarder toutes les archives possibles de cette époque. Et en fait, elle a reçu beaucoup de prix, dont certains extrêmement prestigieux, des prix collectifs, souvent, parce que ça a été un gros travail collectif, l'élaboration de ces modèles climatiques et l'élaboration de ces rapports. Alors vous savez, donc elle a... En fait, dans ces prix, on peut citer un grand prix de l'Institut de France, le prix Louis D, qui a été décerné au laboratoire. Et puis aussi un prix de la Commission européenne pour les projets EPICA. Donc ça, c'est les projets de forage. Et puis surtout, en fait, elle est finalement co-lauréate du prix Nobel de la paix, qui a été décerné au GIEC. En quelle année? En 2007, avec Al Gore aussi. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Valérie Masson-Delmotte, qui va nous parler donc de l'état de la question sur le climat et de sa variabilité.
Alors, je vous remercie de votre invitation. Et donc, je ne vais pas en fait parler que d'archives du climat, en fait, finalement, très peu. Je vais essayer de partager avec vous mon regard de paléoclimatologue et de physicienne, en fait, sur les changements climatiques en cours, en les plaçant par moments dans la perspective de cette longue histoire du climat. Ce que je souhaite également préciser, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de mes travaux personnels, loin de là. Et enfin, vous avez été obligé de m'attendre un peu, j'en suis vraiment confuse. J'ai senti une salle bouillante quand je suis arrivée. Moi, j'ai eu un peu chaud en piquant un sprint depuis la gare de Denfert. Et donc, ce que je vous propose, en fait, c'est d'avoir un moment d'échange en 2 temps. Donc, après ma présentation, vous pouvez me poser des questions. Mais avant, en fait, moi aussi, je voudrais vous poser des questions. Et donc, cette conférence, je l'ai faite sous forme de quiz, en 12 questions sur le climat. Et c'est pour moi important de connaître aussi, finalement, vos avis, vos connaissances sur le climat de notre planète. Et donc, j'aimerais que vous participiez à ce quiz en levant la main quand je vous propose 3 choix, selon le choix qui vous paraît le plus pertinent. Donc, je vais commencer en fait par le début de cette présentation, qui est en fait une image, et qui est l'image de l'éléphant. Est-ce que vous connaissez l'image de la parabole indienne, des sages et des aveugles et de l'éléphant. C'est une image qu'on donne en fait simplement pour parler de différents systèmes complexes. Et la machine climatique, le climat à l'échelle de notre planète, c'est un système extraordinairement complexe, que ce soit à l'échelle d'un individu par rapport à notre perception qui est celle de la météorologie locale, et puis également même par rapport à l'échelle des différents scientifiques qui finalement, pour chacun d'entre eux, ne regardent qu'une petite facette du climat. On va le regarder par satellite, on va le regarder par des grands réseaux de mesures, des campagnes de terrain, on va le regarder à travers la modélisation numérique, on va regarder le climat actuel, simuler le climat futur, étudier les climats passés, mais tout ça ne sont que des facettes d'un même système qui est le système climatique. Et c'est pour ça que je démarre ma présentation, quand elle fonctionne, par une image d'éléphant avec cette parabole indienne où vous avez des aveugles qui touchent un éléphant. Celui qui touche la patte pense qu'il s'agit d'un tronc d'arbre. Celui qui touche la défense pense qu'il s'agit d'une lance. Celui qui touche la trompe qu'il s'agit d'un serpent, ou celui qui touche son flanc pense qu'il s'agit d'un mur. Et en fait, nous n'avons finalement qu'une image partielle du climat, comme ces aveugles devant un éléphant. Et le sage leur explique évidemment que chacun détient une partie de la vérité et que c'est uniquement en pensant différemment, en abordant quelque chose dont nous n'avons pas l'habitude, qu'il est possible d'appréhender ce qu'est cette chose dont on ne peut finalement observer qu'une partie. Donc, mon image, mes outils finalement pour étudier cet éléphant, qui est le système climatique, ils sont de deux sortes. Ils sont à travers les empreintes que l'on trouve dans les milieux naturels. Je m'intéresse en particulier aux glaces polaires. Et puis, donc cette fois-ci, l'image que je donnerai, c'est l'image d'un mammouth. C'est-à-dire qu'on va regarder les vestiges de climats passés, anciens, différents, qui ont été liés à l'évolution de ce système en réponse à différents facteurs modificatifs. Et puis l'autre outil que j'utilise pour comprendre le système climatique, c'est l'outil numérique, à travers la modélisation numérique de l'océan, de l'atmosphère, des glaces, de la végétation, ce qu'on appelle un modèle de climat. Et donc l'image que je donnerai, c'est une sorte d'éléphant pixelisé, parce qu'on ne résout pas tous les processus physiques dans ces codes de calcul, on les simplifie. Un modèle de climat va faire des simulations sur des mailles qui font 100 km par 100 km, au niveau de l'atmosphère. Et sur 100 km par 100 km, on ne va pas pouvoir représenter de manière physique tous les processus de turbulence. On va les simplifier. On ne va pas pouvoir représenter chaque gouttelette d'eau, chaque cristal de glace dans un nuage. On va les simplifier. Et donc, ces modèles de climat sont une image simplifiée, nécessairement, de ce qu'est la réalité de ce système complexe. Donc, ça, c'était juste pour planter le décor de ce système climatique qui nous intéresse aujourd'hui et qui nous intéresse finalement à double titre. Il nous intéresse au titre simplement de la curiosité scientifique pure. Comment le climat fonctionne? Qu'est-ce qu'il fait varier? Comment a-t-il varié dans le passé? Comment cette évolution passée du climat a conduit à une évolution des écosystèmes, des paysages, mais aussi des êtres vivants? Et l'histoire humaine, elle a été en partie écrite à côté d'une histoire importante de l'évolution du climat. Mais aujourd'hui, elle nous intéresse également parce que nous sommes 7 milliards d'humains aujourd'hui, demain peut-être 9 milliards d'humains, et que finalement, nous sommes peut-être plus vulnérables que par le passé, par le seul fait de la densité humaine, à la variabilité climatique. Et puis nos actions à l'échelle planétaire modifient profondément la composition atmosphérique, et donc, en ce sens, pose d'une autre manière cette question des relations entre l'homme et le climat. Donc là, c'était l'image pixelisée de mon système complexe, le modèle numérique de climat qui est une image simplifiée de la complexité de ce système, et puis les climats anciens qui sont une étude des réactions passées de ce système à différentes perturbations. Et donc, comme pour tous les domaines scientifiques, les sciences du climat progressent à travers les capacités d'observation et les progrès technologiques qui les permettent, à travers l'étude des processus, à travers la modélisation numérique qui permet de simuler ce système, de le comprendre, mais aussi d'anticiper son évolution. Et en ce sens, nous sommes dans une phase, je pense, de rupture majeure par rapport à notre adaptation au changement climatique. Le fait de pouvoir anticiper sur l'évolution du climat, c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau par rapport à notre relation à l'environnement. Et donc, ce que j'essaie de vous montrer par là, c'est quelques-uns des défis scientifiques qui nous sont posés. Alors, quand je dis « nous », et je vais arriver à ma première question, finalement, qui finance ces recherches sur le climat et ces sciences du climat ? Pensez-vous qu'il s'agit du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, des organisations non gouvernementales ou des pouvoirs publics ? Alors, si vous pensez que nous sommes financés par le GIEC, réponse A, pouvez-vous lever la main ? Si vous pensez que nous sommes financés par des ONG, pouvez-vous lever la main ? Donc, vous pensez tous, donc, que nous sommes financés par les pouvoirs publics. Voilà. Alors, c'est effectivement le cas. Donc, le GIEC ne fait pas de recherche. Le GIEC fait simplement une synthèse de l'état des connaissances, produit des rapports à partir de la littérature scientifique. La différence entre les travaux du GIEC et les travaux de recherche, c'est qu'ils sont rédigés et relus par un plus grand nombre de personnes qu'un article scientifique individuel. C'est sa principale qualité. Ensuite, les ONG financent parfois certains travaux de recherche, en particulier sur les relations climat-biodiversité, pour des études de conservation dans des parcs nationaux, par exemple. Nous sommes de plus en plus financés par des organisations, par des entreprises privées. Il existe un certain nombre de fondations, par exemple par des banques comme la BNP, des assurances comme AXA ou la MAIF, qui s'intéressent à la question du climat et qui réalisent des appels d'offres sur des questions de recherche spécifiques, par exemple les événements extrêmes en relation avec le changement climatique. Mais la plupart de nos travaux, nos salaires, nos projets de recherche sont financés par différents ministères, ministère de l'Industrie, ministère de la Recherche, ministère de l'Environnement, Commission européenne, etc. Ensuite, est-ce que cette communauté de recherche, elle est réduite, elle est moyenne ou elle est importante ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une dizaine de chercheurs en sciences du climat en France ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une centaine de chercheurs en sciences du climat, chercheurs et enseignants-chercheurs ? Et est-ce que vous pensez qu'il y a environ 1000 chercheurs et enseignants-chercheurs ? Alors en fait, la réponse correcte, si on considère l'observation de l'atmosphère, les réseaux de mesures météorologiques, l'observation de l'océan, les campagnes océanographiques, l'observation des glaces, l'étude des interactions sol-végétation-atmosphère qui contribuent au fonctionnement du climat, si on intègre l'observation spatiale de la Terre, ainsi que la modélisation numérique, on estime qu'on a une communauté d'environ 1000 chercheurs, enseignants-chercheurs en France qui travaillent sur les sciences du climat. Au niveau international, il y a à peu près 10 000 scientifiques qui participent aux grosses réunions annuelles en Amérique du Nord et en Europe. Donc ça donne une idée de la taille de la communauté internationale au sens large des sciences du climat. Donc je vois que sur cette question-là, vous étiez déjà un petit peu moins percutant. Ensuite, ma troisième question est la suivante. Quand sont nées les sciences du climat ? Donc, est-ce que vous pensez que les sciences du climat sont relativement anciennes et sont nées dans l'Antiquité ? Alors, le mot « climat » vient du grec, qui signifie « inclinaison ». Les Grecs ayant observé le lien entre la quantité d'énergie solaire incidente et puis le cycle diurne, le contraste été-hiver, et même les gradients de température, en gros, entre l'Égypte et puis l'Écosse, qui était la gamme de leurs explorations. Est-ce que vous pensez que les sciences du climat sont nées au XIXe siècle ? Alors, en fait, beaucoup de briques de base des sciences du climat, de la physique classique, elles ont été élaborées au XIXe siècle, de même que beaucoup des grands réseaux de mesures, par exemple météorologiques, qui nous permettent d'avoir un suivi quantitatif à l'échelle globale. Et enfin, est-ce que vous pensez que les sciences du climat sont nées à la fin du XXe siècle ? Alors en fait, les sciences du climat telles que moi je les utilise, avec par exemple dater, quantifier des changements dans des archives naturelles, ben, les balbutiements c'est les années 1950, avec des méthodes physiques appliquées à ces archives naturelles, la modélisation numérique de l'atmosphère pour la prévision météo, puis du climat, c'est né également à partir des années 1940-1950. Et les modèles de climat, les méthodes qu'on utilise couramment, beaucoup d'entre elles ont été développées à partir des années 1975-1980. Et je le résume donc en disant que, évidemment, les trois réponses, elles sont tout à fait correctes. Et puis, j'ai cette frise chronologique un peu simplifiée. Vous avez, en fait, le premier instrument de mesure météorologique. Ce sont des marches d'escalier graduées qui permettaient de mesurer les crues du Nil. Pourquoi mesurer les crues du Nil ? Elles étaient critiques pour la production agricole, mais également pour les recettes fiscales d'un des premiers États centralisés. Et donc, il y a eu une volonté politique de mesurer, d'anticiper l'évolution des crues du Nil et d'en tenir des chroniques, finalement, sur une durée très longue pour connaître leurs fluctuations. Et comme je vous avais expliqué que les Grecs avaient nommé, nous avons tiré du grec le terme « climat », de la même manière, on rapporte à Aristote les propos suivants. De même que dans une saison de l'année, l'été et l'hiver se succèdent, sur une longue période de temps survient un très long hiver et une excessive abondance de pluie. Comparé à notre propre existence, ces phénomènes passent inaperçus. Et donc, probablement par une tradition orale, les Grecs avaient cette observation d'un climat qui fluctue et qui fluctue à une échelle plus grande que la vie humaine. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, nous, comme individus, armés pour détecter ces changements qui se produisent relativement graduellement, mais qui sont tout à fait mesurables en termes de température ou en termes de pluviométrie, par exemple. Donc ces idées d'un climat qui fluctue, elles sont ressorties surtout au XIXe siècle, et pour ceux qui sont intéressés par les controverses scientifiques, les débats, en particulier à l'Académie des sciences, étaient vifs, qui opposait une vision, je dirais, religieuse et figée du monde aux découvertes des naturalistes, des glaciologues, qui témoignaient d'un environnement qui avait changé, de glaciers plus étendus, et donc d'un climat qui avait varié. Les notions, je pense, les plus importantes sont la capacité d'observation quantitative, avec les premiers instruments, les grands réseaux de mesures, et puis l'observation par satellite, l'intégration dans des grandes bases de données, au cours de la fin du XXe siècle. La physique de base, qui est indispensable pour comprendre et modéliser le climat, la physique des fluides, la thermodynamique, les transferts radiatifs. En fait, ce qu'on met en place pour modéliser le climat, c'est une physique en fait très classique et bien établie. Et puis ensuite, au XXe siècle, je dirais, il y a la connaissance et la caractérisation quantitative des climats passés. Il y a également donc la capacité de modélisation qui a vraiment révolutionné la compréhension du système climatique global avec la puissance de calcul qui permet finalement pas uniquement de faire des prévisions météorologiques qui dépendent de l'état initial de l'atmosphère et puis qui permettent de regarder à quelques jours son évolution, mais en fait de calculer l'évolution de l'atmosphère, de l'océan, leurs interactions avec la banquise, avec la végétation sur une échelle de temps maintenant de plusieurs milliers d'années. Donc on est aujourd'hui à un moment où on peut même simuler des transitions entre un climat glaciaire et un climat chaud ou faire des ensembles de simulations à l'échelle des prochains siècles. Alors je vous parle de climat. Pensez-vous que la température moyenne à la surface de la Terre, qui en est l'un des indicateurs classiques, a augmenté depuis les années 1900 qui marquent le début d'une période de mesure précise de cette température. Donc pensez-vous que cette température n'a pas augmenté ? Pensez-vous qu'elle a augmenté d'environ un demi-degré ? Pensez-vous qu'elle a augmenté d'environ 0,8 degré ? Alors en fait, la température a augmenté de manière significative, sans aucun doute. Et si on regarde entre 1900 et aujourd'hui, c'est environ 0,8 degré. En fait, ce chiffre, il n'est pas négligeable, en particulier dans un débat public où les décideurs internationaux, les chefs de gouvernement, se sont engagés à limiter, lors de la conférence de Copenhague en 2009, le réchauffement global à 2 degrés au-dessus du climat pré-industriel. Donc on a déjà, en fait, un réchauffement de 0,8 degrés. Ce réchauffement s'est déroulé de la manière suivante. Vous avez cet enregistrement qui démarre en 1880 et qui s'arrête ici en 2011. Donc on n'a pas les données de l'année en cours. C'est représenté sous forme d'anomalie de température en degrés Celsius par rapport à la période de référence. Et la période de référence est, je pense, ici 1960-1990. Et donc vous avez les quatre estimations qui ont été produites par quatre groupes différents. La NASA, le Met Office britannique, la NOAA, l'Agence américaine océan-atmosphère, et enfin l'Agence météorologique japonaise. Ces différents groupes ont compilé les relevés météorologiques des stations terrestres, 8000 aujourd'hui, 4000 au début du siècle, les mesures océanographiques qui étaient réalisées de manière systématique sur une partie de la flotte marchande en particulier, et puis par des systèmes d'observation océanographique et plus récemment par télédétection. Ces données météorologiques ou océanographiques brutes doivent être corrigées. On appelle ce travail l'homogénéisation. Il faut corriger des changements d'instruments au cours du temps. Il faut également corriger des faits, par exemple, d'urbanisation en région de grande agglomération. Ensuite, il faut corriger du déficit dans la couverture spatiale de ces enregistrements, puisqu'on n'a pas une couverture homogène et parfaite à la surface du globe. Certaines régions, comme l'Arctique, sont peu représentées dans le réseau de mesures. Et donc, on a une incertitude qui est associée à ces observations. Cette incertitude, vous en avez une estimation par la dispersion entre les différentes reconstructions. Ce que vous voyez également, c'est que ce réchauffement, il n'est pas linéaire, monotone. Vous avez une première vague de réchauffement entre les années 1900 et 1940, un plateau. Et puis une deuxième vague de réchauffement, c'est les 0,5 degrés, qui a été mesurée à partir, en gros, des années 1960. Donc la dernière décennie est la plus chaude mesurée depuis le début de l'enregistrement météorologique. Vous voyez également que si on fait une tendance à l'échelle d'une dizaine d'années, cette tendance est extrêmement fluctuante. On ne détecte le réchauffement que sur une période d'une quinzaine d'années ou plus. Une grosse partie finalement du travail des climatologues aujourd'hui, c'est d'arriver à comprendre les différents soubresauts de cette courbe de température moyenne globale. À l'échelle globale, qu'est-ce que ça va représenter essentiellement ? Ça va représenter l'équilibre thermique de notre planète, qui va dépendre des échanges de rayonnement, c'est-à-dire la quantité d'énergie solaire qui arrive, qui est interceptée, et la quantité de rayonnement infrarouge qui part. Ça, c'est vraiment la notion de température liée à l'équilibre radiatif terrestre. La température à la surface des océans et des continents, elle peut être également affectée par l'entrée de chaleur en profondeur des océans, qui finalement peut absorber une partie d'un déséquilibre radiatif et atténuer le réchauffement à la surface des océans ou des continents. Sur ce graphique, je souhaite également mentionner que le travail scientifique sceptique le plus rigoureux que je connaisse, c'est celui de physiciens de l'université de Berkeley qui ont repris toutes les mesures météorologiques terrestres pour montrer leur indépendance. Ils ont cherché des financements privés, en particulier par des groupes de l'industrie chimique et pétrolière américains. Donc ils ont repris toutes les observations, ils ont refait le travail, pour l'instant sur les données terrestres, donc la reconstruction s'appelle BEST, et ils obtiennent un résultat tout à fait similaire à ce qui est présenté ici. Alors, un climat qui change, c'est à la fois un état moyen qui change, mais aussi une variabilité du climat qui est différente. Et mon collègue américain Jim Hansen, qui est l'auteur de ce travail, l'explique avec l'image des dés. Pour les températures d'été sur les continents, à la surface des continents, vous avez une certaine distribution gaussienne des températures qu'on peut regarder ici sur la période de référence en vert, 1950-1980. Vous avez une certaine probabilité d'avoir un été frais, donc un été qu'on avait appelé pourri, et une certaine probabilité d'avoir une vague de chaleur, d'accord ? Donc c'est comme si vous lanciez des dés. Mais quand en fait le climat se réchauffe, c'est comme si vous pipiez les dés et que vous favorisiez l'occurrence d'événements chauds. Et une des questions qui se pose est de savoir comment la distribution de température évolue. Est-ce que c'est une gaussienne qui se décale, ou est-ce que cette distribution s'aplatit ? C'est-à-dire, est-ce qu'on aura, de manière non linéaire, des occurrences plus importantes d'événements très chauds ? Et donc, ce que vous pouvez suivre là, je vois beaucoup de cheveux gris, donc je pense que ça reflète en fait l'évolution des températures pendant votre vie, finalement, entre votre jeunesse et puis les trois dernières décennies, je dirais. Et on voit en fait, 10 ans par 10 ans, l'ombre de la période de référence est toujours représentée en vert. On voit cet histogramme de température qui se décale. En fait, on a un réchauffement en moyenne un peu plus important sur les continents qu'à la surface des océans. Et la raison est l'évaporation des mers qui stabilise leur température, alors que les sols, qui sont en particulier moins riches en eau en été, n'ont pas la capacité d'évaporer pour stabiliser leur température de surface. Et à l'échelle globale, on observe un réchauffement plus marqué sur les continents que les océans. Et ce que vous voyez également, donc, c'est ce décalage des températures moyennes, donc 1 degré en fait, au cours des derniers 50 ans. Et puis vous avez également un histogramme qui s'est aplati. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui était finalement exceptionnel, deux écarts-types au-dessus du climat de référence au milieu de ce siècle, ça se produisait finalement une année sur 20. Mais si vous prenez le même événement, deux écarts-types au-dessus de la période de référence, il va se produire en fait une année sur 3 maintenant. Et puis vous voyez apparaître des événements météorologiques, 3, 4, 5 écarts-types au-dessus des températures de référence. Donc c'est ce qu'on va appeler des canicules exceptionnelles. Et nous en avons quelques exemples récents. L'été 2003 en France, qui sortait de la gamme des variations connues au cours des derniers siècles. L'été 2010 en Russie, qui a été également plusieurs écarts-types au-dessus des températures connues dans cette région-là. Ou l'été dernier, dans les grandes plaines américaines, avec une vague de chaleur persistante et très intense. Et donc, ce qui est important à noter, c'est que un climat qui change, c'est pas simplement la température moyenne qui est plus élevée, c'est la fréquence de certains types d'événements, en particulier les événements chauds, de forte intensité, qui changent de manière absolument disproportionnelle par rapport au simple degré d'augmentation. Pourquoi j'insiste sur cet aspect d'événements extrêmes? Parce qu'évidemment, ce sont ceux qui ont le plus d'impact, des impacts en termes de qualité de l'air, pour les vagues de chaleur, des impacts en termes de santé publique, avec l'effet de la chaleur, l'effet de la qualité de l'air, parfois l'effet des feux de forêt autour de Moscou. On a également des effets extrêmement importants sur la production agricole. Et de nombreuses études ont montré que pour le blé et pour le maïs, les progrès des rendements agricoles grâce aux techniques agronomiques ont été en partie effacés par l'effet finalement négatif sécheresse, vague de chaleur, et vous êtes certainement au courant d'une forte volatilité du prix de certaines matières premières agricoles, en particulier liées à des chutes de production, par exemple l'été dernier pour le maïs dans les grandes plaines américaines. Alors un climat qui change, ce sont parfois des paysages qui changent. Et ce climat qui change n'est que très peu visible en Île-de-France, par exemple, si on essayait de le visualiser. Il y a quelques amateurs qui vont observer des changements dans les écosystèmes, dans les populations d'insectes ou d'oiseaux, mais ça échappe à la plupart d'entre nous. Dans les régions de montagne, on peut très clairement voir un recul des glaciers à l'échelle d'une vie humaine. C'est spectaculaire dans les Pyrénées ou dans les Alpes, mais dans la plupart des massifs de montagne. Dans certains cas, les glaciers gonflent parce qu'il neige plus, mais dans leur grande majorité, les glaciers à la surface terrestre reculent. C'est très spectaculaire dans les régions arctiques pour lesquelles un certain nombre de processus amplificateurs conduisent à un changement de température multiplié par rapport à la moyenne globale. Donc du côté de l'Arctique, c'est un réchauffement de plus de 2 degrés au cours des derniers 50 ans, tout à fait spectaculaire, et qui se traduit donc par un recul des zones de banquise. Donc je vous le montre finalement en image inversée. Ce qu'on voit ici, ce sont les zones océaniques qui deviennent libres de banquise. Et donc c'est comme une sorte de nouvelle frontière qui s'ouvre, à la fois pour des écosystèmes d'eau tempérée pour migrer vers le nord, de nouvelles possibilités de routes maritimes, de nouvelles possibilités de revendications pour l'exploitation des ressources en pêche, par exemple. On a également donc des continents arctiques qui ont une couverture neigeuse avec une durée réduite, avec une productivité de la végétation qui change, une migration des forêts boréales vers le nord, une augmentation de l'indice de végétation. En fait, c'est un indice qui est lié à la présence de pigments de chlorophylle et qu'on peut détecter à grande échelle de cette manière par satellite. Et j'aime bien montrer cette image de l'Arctique, d'une part parce que je travaille souvent sur les informations climatiques au Groenland, mais parce que je pense que ça illustre le mélange complexe d'opportunités et de vulnérabilités associées à un climat qui change. Alors des opportunités, on les voit se dessiner avec des enjeux d'exploration minière, pétrolière, l'accès aux ressources et les routes maritimes. Et puis les vulnérabilités, ça peut être des transports à la fois maritimes ou terrestres pour les populations locales, plus délicats. Les fleuves glacés sont utilisés comme des voies de circulation. Les débâcles plus précoces, le gel plus tardif, rend plus difficile le transport dans ces zones, de même que le dégel du pergélisol peut également compliquer les transports terrestres, en Sibérie par exemple. De la même manière, en mer, les différentes communautés du Groenland se déplacent en hiver en utilisant la banquise comme une voie de transport d'un village à l'autre. Et la présence plus épisodique de banquises ou de morceaux de banquises fracturés rend ce transport en fait très difficile. Donc on est dans une phase un peu de transition finalement, où on a affaire à une adaptation permanente à des changements de conditions de vie année après année. Toujours en parlant du Groenland, je voudrais mentionner que l'été 2012 a été particulièrement exceptionnel. On a eu un épisode de fonte qui a été détecté sur l'ensemble de la surface de l'Inland 6, ce qui n'avait jamais été mesuré précédemment. Donc une calotte de glace, hein, ça s'épaissit par la neige au centre. Et puis sur les flancs, on a toujours de la fonte et puis un écoulement qui libère des icebergs. Et les quelques dernières années ont été marquées par des vagues de chaleur localement assez spectaculaires. Et l'été dernier, donc une fonte qui a été détectée sur l'ensemble de la surface de la calotte. Donc nous avions la fin d'une opération de forage ici à 2500 mètres d'altitude. On a eu des températures positives pendant plus de 2 semaines fin juillet. On a eu en fait énormément de fonte et puis de regel de l'eau de surface dans la profondeur de la neige. Et cet événement de fonte, sa dimension finalement, telle qu'on l'a vu sur place se réaliser, est exceptionnelle par rapport aux 2 événements de fonte qu'on connaît sur les siècles précédents. Et en fait, on a une situation de température au Groenland qui, en fait, n'a pas tellement d'analogue sur les derniers millénaires. Il faut remonter sur des périodes plus anciennes où l'orbite terrestre était différente. Cette région recevait davantage d'énergie solaire en été pour trouver des situations similaires à celles de l'été dernier. Alors, je vous parle de réchauffement et finalement, une question clé, c'est de comprendre quel est le moteur de ce réchauffement. Et à l'échelle globale, ce qui fait varier le climat, c'est l'activité du soleil, qui est un des moteurs de l'énergie interceptée et absorbée à la surface terrestre. L'activité volcanique, qui va injecter lors des explosions du volcanisme explosif tropical, des petites particules dans la haute stratosphère, qui vont, pour faire très simple, jouer par un effet parasol, et pendant leur durée de vie, 1 ou 2 ans, avoir un effet refroidissant. On a également une variabilité océan-atmosphère extrêmement forte, des interactions non linéaires entre ces 2 fluides en rotation. Et en particulier, on a des phénomènes comme le phénomène qu'on appelle El Niño, qui se marque par des anomalies très fortes de température au niveau de l'océan Pacifique équatorial, avec des répercussions sur la température planétaire. Et puis enfin, les activités humaines perturbent ce système par l'ajout de gaz à effet de serre, du fait de l'utilisation d'énergie fossile, production de ciment, déforestation. Nous changeons aussi l'état de surface de cette planète par les activités agricoles, par l'urbanisation. Et puis enfin, nous rejetons également des particules de pollution qui peuvent avoir un effet, disons, refroidissant, pour faire simple, concentré autour des grandes agglomérations. Alors, est-ce que vous pensez que le moteur du réchauffement observé est surtout lié à l'activité du soleil ? Est-ce que vous pensez que c'est surtout lié à des changements dans l'activité volcanique ? Est-ce que vous pensez que le duo océan-atmosphère joue un rôle clé dans l'évolution du climat ? Et est-ce que vous pensez que les activités humaines ont un rôle déterminant dans le réchauffement observé ? Alors, comment faire cette analyse d'une relation de cause à conséquence pour un système complexe avec toujours de multiples facteurs à l'œuvre ? Je vais juste vous présenter 2 types d'analyses et ce secteur entier de recherche qui porte sur la détection et l'attribution des changements utilise en fait des méthodes mathématiques assez sophistiquées que je vais totalement passer sous silence. Donc la première approche, c'est une approche purement statistique. En fait, on va traduire les variations d'activité solaire et volcanique, les activités humaines en perturbation du bilan radiatif terrestre en watts par mètre carré. OK ? Et ensuite, on va considérer les événements El Niño sous forme de l'anomalie de température globale liée à l'anomalie de température dans les régions du centre d'action des événements El Niño. On va ensuite faire une analyse de corrélation entre la température globale et ses différents termes. Donc l'hypothèse sous-jacente, c'est que le climat va réagir de manière linéaire à des perturbations de son bilan radiatif. Et donc la notion en fait sous-jacente, c'est la notion d'une certaine sensibilité du climat avec une réponse en degrés Celsius proportionnel au watts par mètre carré de perturbation. Cette notion de sensibilité du climat, c'est quelque chose qu'on teste sur différentes périodes de temps, que ce soit des climats très anciens, des climats glaciaires, et c'est une notion qui a un sens par rapport à différents types de perturbations du bilan radiatif terrestre. Donc voilà en fait le travail que je trouve finalement le plus simple pour déconvoluer de manière statistique l'impact des différents termes sur l'évolution de la température à la surface de la Terre. C'est le travail d'une astrophysicienne américaine qui s'appelle Judith Lynn, dont les données ont été mises à jour ici par rapport à ses publications pour aller jusque à l'année 2011. Donc vous avez en noir de nouveau la température moyenne à la surface terrestre. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est une seule des courbes, et elle apparaît un peu plus bruitée parce qu'on la représente en fait mois par mois et non pas année par année. Ce que vous avez dans les différentes couleurs, exprimé en température moyenne à la surface de la Terre, c'est l'impact des événements El Niño ou La Niña, en vert, l'impact de l'activité volcanique, en bleu, l'impact de l'activité solaire, en relation avec donc la quantité totale d'énergie solaire qui arrive, et puis enfin, les facteurs anthropiques dans leur totalité. Ce que vous pouvez voir, c'est que quand on prend cette décomposition linéaire, on parvient à expliquer beaucoup des grands traits de l'évolution de la température observée. On arrive à expliquer une partie du réchauffement au début du XXe siècle, le réchauffement de la fin du XXe siècle et certaines des fluctuations à l'échelle d'une année ou d'une décennie, mais pas tout. Ensuite, ce qu'on peut également voir, c'est donc quand on considère l'activité océan-atmosphère, les événements El Niño se marquent par des anomalies de température globale de l'ordre de 0,1 degré, donc tout à fait significatif. Et vous avez en particulier le dernier gros événement, 1998, qui se traduit par le record récent de température moyenne à la surface de la Terre. Vous pouvez voir qu'on a eu sur les derniers 40 ans quelques événements El Niño particulièrement forts, mais qu'on n'a pas une tendance systématique qui pourrait expliquer le réchauffement observé. Si on considère l'activité volcanique, on voit que les grosses éruptions ont un effet qui peut être d'une fraction de degré sur la température moyenne à la surface de la Terre. Quelques éruptions d'intensité moyenne au début du XXe siècle, une période relativement calme, et puis enfin une fin du XXe siècle marquée par plusieurs événements de assez forte intensité et finalement un peu plus fréquents que la moyenne qu'on connaît sur quelques millénaires vers le passé. Donc plutôt une période agitée côté volcanisme explosif. Le dernier gros événement, c'est le volcan Pinatubo, qui est en photo ici, en 1991. Et donc ce que vous voyez, c'est que l'absence d'activité volcanique dans les années 1930 à 1950 a pu contribuer à ce réchauffement qui est observé. Mais sur la fin du XXe siècle, c'est un terme qui aurait dû provoquer un léger refroidissement. Si on considère le terme lié à l'activité du Soleil, c'est un terme qui fait l'objet de nombreux travaux parce que l'activité du Soleil joue sur différentes longueurs d'onde, avec des effets sur le rayonnement UV qui ont un impact sur la dynamique de la haute atmosphère, avec des questions sur les effets à plus grande échelle. Là, on va pas regarder le terme UV, on regarde simplement l'effet en watts par mètre carré de la totalité du rayonnement solaire. Et donc, il semble qu'il y ait eu une légère augmentation de cette activité au début du XXe siècle et que, superposé au cycle de 11 ans, on soit sur une stabilité sur le long terme au cours des derniers 50 ans. Au cours des derniers 10 ans, on a eu en fait un cycle solaire particulièrement faible, qui est à la fin de cette courbe. Et ce qui est important à noter, c'est que cette activité solaire joue sur des variations de température de l'ordre de 1 dixième de degré. C'est un terme qui joue de manière significative sur les tendances à l'échelle d'une décennie, mais qui ne peut pas à lui seul expliquer le réchauffement des derniers, je dirais, 40-50 ans. Et enfin, pour finir, la somme des facteurs anthropiques, donc changement des propriétés réfléchissantes des surfaces continentales, gaz à effet de serre et rejet de particules de pollution, c'est ce terme-là qui est le moins bien contraint. On n'a pas de mesure de l'effet radiatif des particules de pollution avant la période d'observation par satellite. Et donc c'est ce terme qui est le plus incertain. On pense qu'on a eu en fait une légère augmentation au total de l'effet radiatif des activités humaines au début du XXe siècle, avec les particules de pollution qui masquaient le début de l'impact des rejets de gaz à effet de serre, mais que à partir des années, je dirais, 1970, c'est finalement le terme de perturbation radiative qui est devenu dominant. Et donc, pour finir sur ce raisonnement un petit peu par l'absurde, en prenant en compte ce qu'on comprend de la sensibilité du climat, des différents facteurs pris en compte ici, on parvient à expliquer une bonne partie du réchauffement observé et des fluctuations à l'échelle interannuelle ou décennale. Les facteurs naturels, soleil, volcan, ont probablement contribué aux variations, en particulier au début du XXe siècle, mais ne peuvent pas expliquer le réchauffement récent. Et on sort de la gamme de variations, je dirais, naturelles en termes de température depuis autour des années 1975. Et donner une date précise fait l'objet d'un débat scientifique qui reste toujours très vif. Alors on peut l'aborder d'une autre manière, complètement indépendamment des observations de température elles-mêmes. On peut utiliser des modèles numériques de climat avec lesquels on va faire des expériences virtuelles. Premier ensemble d'expériences, on démarre en 1900. On impose au modèle de climat uniquement l'activité solaire et volcanique, et on le fait avec les 20 modèles de climat qui existent, qui permet d'avoir une idée de la barre d'erreur. Et ce sont les courbes en bleu qui sont présentées ici, où on peut recommencer avec un état initial aléatoire et refaire un ensemble de simulations dans lesquelles on prend en plus en compte l'impact des activités humaines, gaz à effet de serre et aérosols, donc particules de pollution. Et quand on compare ces ensembles de simulations à l'échelle globale, pour les continents, pour les océans ou pour la structure spatiale des changements, région, grande région par grande région, ce que l'on peut voir, c'est que si on prend en compte les facteurs naturels, on n'explique pas le réchauffement récent. Si on prend en compte les facteurs naturels et anthropiques, on arrive à expliquer une bonne partie à la fois de la structure et de l'intensité des changements observés. Donc le message, en fait, et là, en fait, on est sur une étude à l'aide de modèles de climat qui ne sont pas contraints par les observations de l'évolution réelle du système climatique, uniquement par les perturbations radiatives. Donc je dirais qu'à la fois une étude purement statistique des observations et une étude que j'appelle théorique à l'aide des modèles numériques de climat conduit à la même conclusion, qui est la suivante. Au début du XXe siècle, les facteurs naturels, activité solaire et absence d'activité volcanique par la suite, ont probablement contribué au début du réchauffement observé, mais que sur la deuxième partie du XXe siècle, on ne peut expliquer dans l'état actuel des connaissances le réchauffement observé que par le poids devenu déterminant des activités humaines. Et ce constat, c'est un constat relativement récent, sur des publications à partir, je dirais, des années 2000. C'est une des conclusions du quatrième rapport du GIEC paru en 2007, finalement quelque chose également d'assez récent. Et ça amène une réflexion assez profonde dans la communauté des sciences de la Terre au sens large sur le nom à donner à cette période. Nous sommes dans une période de climat chaud qu'on appelle l'Holocène, et le débat porte sur l'introduction du terme anthropocène pour caractériser la période actuelle comme étant finalement dominée par l'impact des activités humaines, même à l'échelle planétaire en ce qui concerne la composition atmosphérique et l'évolution du climat. Alors, je vous parle d'effet de serre depuis un moment. Est-ce que vous connaissez la teneur actuelle moyenne dans l'atmosphère en dioxyde de carbone, qui est un des principaux gaz à effet de serre? Alors, est-ce que vous pensez, et si vous pensez que c'est 280 parties par million, pouvez-vous lever la main? Si vous pensez que c'est 320 parties par million, si vous pensez que c'est 390 parties par million, ou 450 parties par million. C'est pourtant un ordre de grandeur qui est intéressant à observer, donc ça fluctue en fait beaucoup, mais c'est un ordre de grandeur qui est intéressant à observer, en particulier dans le cadre des négociations internationales sur le climat, puisque finalement, beaucoup de ces négociations portent à la fois sur des flux de gaz à effet de serre et sur, finalement, une cible en termes de concentration. Alors, 280, c'est le niveau pré-industriel qu'on enregistre pendant la plupart des périodes de climat dit interglaciaire, de climat chaud, depuis 1 million d'années. On a 800 000 ans d'enregistrement dans les glaces de l'Antarctique. C'était le niveau observé jusqu'aux années 1750. Ensuite, 320 parties par million, c'était la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère il y a une trentaine d'années. 390, c'est la teneur il y a quelques mois, on est aujourd'hui à 392 parties par million. Évidemment, cette valeur moyenne, elle cache de grosses différences entre l'atmosphère à côté d'une grande métropole et puis dans l'hémisphère sud. Et donc, ce que je vous indique, c'est vraiment une valeur moyenne qui est ici prise comme la série de références sur l'île de Mauna Loa, dans le Pacifique équatorial, qui est considérée comme... C'est d'abord l'enregistrement le plus ancien, et puis c'est un des endroits qui est représentatif de la valeur moyenne de l'atmosphère. Et puis 450, c'est probablement le niveau le plus bas envisageable à horizon de la fin de ce siècle, compte tenu des infrastructures industrielles en place actuellement. Par ailleurs, donc le niveau actuel... 390 parties par million au volume, c'est le niveau qu'on pense que notre climat connaissait pendant la période chaude du Pliocène, il y a environ 3 millions d'années. Donc c'est une période marquée par un climat plusieurs degrés plus chaud qu'actuellement, un niveau des mers probablement environ 10 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Donc je vous mentionne ces exemples à l'échelle géologique parce que nous avons dans la longue histoire du climat terrestre des épisodes de teneur beaucoup plus élevée en gaz à effet de serre et qui correspondent généralement à des climats beaucoup plus chauds que le climat actuel. En exploitant les énergies fossiles, pétrole, charbon et gaz, qui finalement ont été la digestion de ces valeurs élevées en dioxyde de carbone par différents écosystèmes terrestres et marins, nous recréons simplement une atmosphère plus riche en dioxyde de carbone comme notre planète en a connu à l'échelle géologique à l'époque de la formation de ces stocks de matière organique fossile. Et pendant la fin du Crétacé, on avait des teneurs en dioxyde de carbone qu'on estime avoir atteint environ 2000 parties par million dans l'atmosphère terrestre et qui correspondaient à un climat beaucoup plus chaud que le climat actuel. Ces variations sur le long terme étant dues à des équilibres très lents entre le volcanisme et l'érosion, et également à des configurations différentes des continents par rapport à la configuration actuelle. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer cette analyse de l'évolution passée des climats. Donc, on est là, en fait, sur une échelle de temps assez longue, 800 000 ans vers le passé et 200 000 ans vers le futur. Ce qu'on représente ici, ce sont les variations d'un des acteurs clés de l'évolution du climat grâce au calcul de Jacques Lascar, les variations de l'ensoleillement dans l'hémisphère nord en été, qui est modulée par les variations de l'orbite terrestre, son excentricité, l'axe d'inclinaison de la Terre sur cette orbite, et aussi la précession des équinoxes, qui va jouer sur essentiellement la distance Terre-Soleil au cours des saisons. Donc vous avez là l'une des facettes de la manière dont l'orbite terrestre joue sur la quantité, la répartition de l'énergie solaire à la surface de notre planète. Et donc, au cours des derniers 800 000 ans, le climat a basculé entre des états chauds qu'on appelle interglaciaires et puis des états glaciaires d'intensité variable. Et ces états glaciaires sont marqués par un niveau des mers qui baisse, cette eau étant stockée sous forme de calottes de glace qu'on peut deviner ici. Donc ce que l'on voit ici, c'est le résultat de modèles de climat, de modèles numériques de climat, auxquels on prescrit la présence de calottes de glace en Amérique du Nord et en Europe, auxquels on prescrit les changements d'orbite terrestre, auxquels on prescrit également une atmosphère qui contient moins de gaz à effet de serre, moins de dioxyde de carbone et moins de méthane. Et ces modèles de climat simulent un état glaciaire avec un gradient important continent-océan, une forte amplification polaire des changements et une anomalie de température globale de l'ordre de 5 degrés, faible au niveau de l'équateur, en accord avec les données issues des sédiments marins, plus marquée sur les continents de l'hémisphère nord, en accord avec les données issues des pollens, par exemple, dans les tourbières en Europe, ou beaucoup plus important au Groenland ou en Antarctique, en accord mais un peu faible par rapport à nos estimations à partir de l'analyse des carottes de glace. Donc vous avez là une courbe de température parmi beaucoup d'autres qu'on pourrait présenter, qui est l'évolution de la température en Antarctique, avec des variations donc glaciaires interglaciaires qui coïncident avec les variations d'englacement de l'hémisphère nord. Et vous voyez que la gamme de variations en Antarctique, elle est de l'ordre de 15 degrés entre la période interglaciaire la plus chaude et la période glaciaire la plus froide. Donc on a une amplification polaire par rapport aux toutes petites variations finalement à l'échelle globale. Et ces variations de climat, elles sont intimement liées à des variations du cycle du carbone. Donc pendant un état glaciaire, on a un fort assèchement de l'atmosphère qui est plus froide. Cet assèchement de l'atmosphère se traduit par une forte diminution des zones humides, aussi bien boréales que tropicales, et une production de méthane très réduite par la fermentation de la matière organique dans ces zones humides. Donc en climat glaciaire, on a une baisse de la concentration en méthane mesurée dans les bulles d'air de la glace et qui reflète la teneur en méthane dans l'atmosphère. À l'inverse, donc en climat glaciaire, on a un océan qui va séquestrer du dioxyde de carbone. Il va le séquestrer par un ensemble de processus physiques, la simple dissolution qui dépend de la température, physico-chimique avec les réactions des ions carbonate, avec des processus biologiques liés à la sédimentation et avec des processus dynamiques avec des masses d'eau en fait très froides, immobiles, qui stagnent au fond des océans et qui contiennent des grandes quantités de dioxyde de carbone. Et donc, en fait, par ces échanges océan-atmosphère, on a des variations de l'ordre de 80 parties par million de la teneur en dioxyde de carbone entre un climat chaud interglaciaire et un climat glaciaire. Très récemment, on a retravaillé sur le déphasage entre les variations de température en Antarctique et les variations de teneur en dioxyde de carbone. Et donc, ce qu'on détecte sans aucun doute, c'est que on a d'abord l'ensoleillement qui change, puis ensuite les températures qui changent. C'est la réponse du climat à l'énergie solaire qui est répartie différemment. Et très rapidement, entre 0 et 400 ans, les teneurs en dioxyde de carbone qui changent. Donc en fait, on a revu à la baisse le déphasage entre le climat antarctique et la réaction du cycle du carbone, en particulier lié à la ventilation de l'océan austral. Donc on est sur un couplage extrêmement étroit entre la composition atmosphérique, le volume des glaces et le climat. Donc je vous montre toujours les teneurs actuelles en méthane, 1810 parties par milliard en volume, reparti à la hausse depuis quelques années, donc à peu près deux fois la teneur naturelle, et puis le niveau en dioxyde de carbone à peu près 30% au-delà de la gamme de dioxyde de carbone de climat interglaciaire. Ensuite, je vais m'intéresser à ce qu'on apprend des épisodes passés de climat chaud. On va s'intéresser à la dernière période interglaciaire ici, il y a environ 130 à 115 000 ans. Alors pourquoi cette période est intéressante? En fait, c'est la dernière à laquelle on a accès, pour laquelle on sait que l'Antarctique était plus chaude, de 2 à 5 degrés environ. Notre dernier résultat sur le forage NEM au Groenland, qui est sous presse et que je ne peux pas présenter, montre également un changement de température important, plus de 5 degrés du côté du Groenland. Cette période, elle est particulièrement intéressante pour valider nos modèles de climat. En réponse à une orbite terrestre différente, sont-ils capables de simuler la structure de ce réchauffement qui est observé? Donc de nouveau, je vous montre une simulation du changement de température de cette période interglaciaire avec plusieurs modèles de climat. Et puis chaque petit rond, c'est une information tirée d'observations paléoclimatiques à partir de l'analyse de pollen, de glace polaire par exemple. Et vous voyez que la structure des changements est bien représentée, mais que les modèles de climat utilisés peinent à simuler correctement leur amplitude en termes de changement de température complet. Enfin, ce que je souhaite mentionner pour cette période, c'est que le niveau moyen des océans était plus élevé de 5,5 à 10 mètres, c'est la barre d'erreur dont on dispose, par rapport au niveau des mers pré-industrielles. Et on a une énorme question de connaître l'origine de cette montée du niveau des mers, qui témoigne d'une réaction des glaces du Groenland et de l'Antarctique. Le dernier forage que nous venons de finir au Groenland suggère que la calotte du Groenland n'a pas pu fournir plus de 2 mètres à cette montée de niveau des mers, ce qui suggère que l'Antarctique de l'Ouest et peut-être même certains secteurs de l'Antarctique de l'Est ont pu contribuer à pendant plusieurs millénaires, à ce haut niveau marin qui est le plus récent que nous connaissons. Donc en gros, ce qu'on apprend des climats passés à cette échelle de temps, c'est que les modèles de climat représentent à peu près correctement l'impact de changement de l'orbite terrestre sur le climat, représentent à peu près correctement la réponse du climat à des variations glaciaires, interglaciaires de teneur en gaz à effet de serre, que climat et niveau des mers sont intimement liés et que les calottes de glace qui existent aujourd'hui ont réagi par le passé, pendant plusieurs millénaires, à des réchauffements de plusieurs degrés aux deux pôles. Alors, je vous parle de dioxyde de carbone et quelle est sa durée de vie dans l'atmosphère? Si vous rejetez aujourd'hui quelques molécules de dioxyde de carbone, quand vont-elles disparaître? Est-ce que vous pensez que la durée de vie du dioxyde de carbone est de l'ordre de une année? Est-ce que vous pensez que c'est de l'ordre d'une centaine d'années? Alors, vous votez comme Wikipédia, en fait. Est-ce que vous pensez que c'est de l'ordre de un millier d'années? Alors, un an, c'est le temps de mélange. Donc, c'est quelques jours à l'intérieur d'un hémisphère, et c'est à peu près un an le temps de mélange dans l'atmosphère globale, sachant que pour le dioxyde de carbone, on a des flux extrêmement importants liés à la respiration et la photosynthèse en permanence. 100 ans, c'est la période de temps pour laquelle les puits naturels que sont les océans, les sols et la végétation mettent pour absorber à peu près la moitié des émissions. Et enfin, l'autre moitié, elle reste dans l'atmosphère et elle ne va en fait s'en échapper que par des processus d'érosion et de sédimentation qui ont des constantes de temps très lentes. Et donc, si on pourrait dire on a pour à peu près 50%, c'est 100 ans, mais pour le reste, c'est un temps de résidence qui est très long, environ 30% encore là dans 1000 ans, 10% dans 10 000 ans. Et donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que le dioxyde de carbone, c'est une forme de déchet à longue durée de vie dans l'atmosphère. Alors, ce schéma illustre le devenir des émissions d'origine humaine de dioxyde du carbone. C'est exprimé en flux de dioxyde de carbone en fonction du temps. Vous avez ici l'impact de la déforestation, donc qui a augmenté, mais qui ne représente aujourd'hui que peut-être 10% des rejets anthropiques, parce que notre utilisation des énergies fossiles a fortement augmenté, en particulier au cours de la dernière décennie. Vous voyez là ce petit bond. Ensuite, sur ces sources anthropiques de dioxyde de carbone, à ces sources, il faut retirer l'impact de différents puits. Alors, cet exercice, il se fait à partir d'un réseau de mesures au niveau de l'ensemble de la planète, d'outils de modélisation contraints par ces observations pour essayer de définir l'absorption par la surface des continents, sol et végétation, et par les océans. Donc on estime qu'on a à peu près un quart des émissions anthropiques qui sont absorbées par la végétation et les sols. Et vous voyez que cette partie-là, en fait, est extrêmement fluctuante. D'une année à l'autre, elle fluctue tout simplement avec le climat, dans la mesure où des conditions sèches vont être un frein à la photosynthèse, alors que dans certains cas, une saison de croissance plus longue sera plutôt bénéfique. Et on a donc un puits de carbone continental qui est extrêmement affecté par les conditions météorologiques et l'évolution même du climat. Le deuxième puits de carbone, c'est l'océan, que j'ai mentionné brièvement tout à l'heure. Donc le pH de l'océan a déjà baissé de 0,1 unité au cours du XXe siècle, ce qui est un des indicateurs de cette absorption de dioxyde de carbone dans les eaux de mer. Donc on a ici moins de fluctuations d'une année à l'autre. En fait, on voit l'ombre des événements El Niño, par exemple, qui vont jouer sur la ventilation des eaux de surface dans le Pacifique. Et on a des travaux qui développent le couplage entre la modélisation du climat et la modélisation du cycle du carbone. Ces travaux suggèrent que dans un climat plus chaud, ces puits de carbone ont une efficacité qui peut diminuer. Une des interrogations que nous avons en particulier porte sur les zones de pergélisol qui contiennent de grandes quantités de matière organique et sur leur évolution dans un climat qui se réchauffe. Les travaux les plus récents considèrent que, dans quelques décennies, on aura des rejets possibles de méthane, de dioxyde de carbone, mais que ces rejets pourraient être relativement graduels dans la durée, sur des échelles de temps de l'ordre du siècle et au-delà, et donc être un facteur finalement amplificateur du changement climatique sur le long terme. Alors pensez-vous que les politiques climatiques au niveau global, pas au niveau français, je ne veux surtout pas me lancer dans une analyse de l'effet des politiques nationales, donc pensez-vous qu'au niveau international, on a pu infléchir les rejets de gaz à effet de serre? Pensez-vous que l'action politique a permis de diminuer les rejets de gaz à effet de serre ces dernières années? Pensez-vous qu'elles ont permis en fait une action importante pour les stabiliser alors que sous l'effet de la croissance démographique ou économique, elles auraient dû augmenter? Et pensez-vous qu'en fait elles n'ont pas eu d'effet et qu'on observe une accélération des rejets de gaz à effet de serre? Et donc les réalistes, c'est les derniers. Alors on peut l'observer ici, ce sont des diagrammes qui viennent du World Outlook for Energy, de l'Agence internationale à l'énergie, et ici je crois repris par British Petroleum. Donc cela reflète l'évolution depuis 1820 de la consommation mondiale d'énergie par année, où on voit en fait que chaque nouvelle source d'énergie s'est finalement ajoutée aux autres et ne les a pas remplacées. Avec donc une longue histoire d'utilisation du charbon qui a de nouveau connu un boom au cours de la dernière décennie, en particulier en Asie du Sud-Est, une augmentation de l'utilisation du pétrole, une augmentation de l'utilisation du gaz naturel. On est dans une phase de rupture assez importante sur l'exploitation du gaz naturel par l'utilisation à très grande échelle de ressources non conventionnelles en Amérique du Nord, qui font chuter le prix du gaz et par conséquent le prix du charbon également. Et donc on est dans une situation actuellement d'abondance de ressources fossiles bon marché. Et puis on a l'énergie nucléaire qui est une petite partie ici, ainsi que la biomasse en bleu. Si on regarde, ramené à l'évolution de la population mondiale qui a énormément augmenté, l'évolution de la consommation d'énergie par personne, vous pouvez voir en fait l'augmentation extrêmement importante pour finalement les deux dernières générations, depuis les années 1950, avec une consommation d'énergie moyenne par personne qui a plus que doublé. Si on étudie la situation pays par pays, vous pouvez regarder les courbes en rouge, ce sont les émissions totales de dioxyde de carbone par pays. Qui sont les principaux émetteurs? Ce sont d'abord la Chine maintenant, les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde, puis la Russie. Donc l'Union européenne n'apparaît pas regroupée à 27, mais elle est le troisième émetteur mondial de dioxyde de carbone. Donc la situation internationale a beaucoup changé finalement, entre une responsabilité historique des pays développés et aujourd'hui un poids qui devient extrêmement important des pays émergents comme la Chine ou l'Inde. Ces chiffres par pays masquent une grande différence dans les émissions de dioxyde de carbone par personne et par an, qui sont ici représentés en noir. Vous avez aujourd'hui des émissions par personne et par an en Chine qui sont très comparables à celles de la France chaque année, ce qui masque une réalité à l'échelle individuelle très différente, dans la mesure où une grosse partie de ces émissions de gaz à effet de serre chinoises sont utilisées dans les infrastructures industrielles qui produisent une grande partie des biens de consommation que nous importons. Et donc, ces chiffres par pays masquent l'effet du commerce international et des délocalisations qui, par l'effet du moins-disant économique, social et environnemental, conduisent à utiliser prioritairement l'énergie la moins chère, et en particulier le charbon, qui est un des moteurs de la croissance économique chinoise. Vous avez également quelques situations assez intéressantes en rejet de gaz à effet de serre par personne, dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Canada, Australie, avec des rejets extrêmement importants par individu, liés à l'étalement des zones d'habitation, au mode de vie, à une faible efficacité énergétique. Et vous avez des records mondiaux, comme en Arabie Saoudite ou au Qatar, qu'on donne souvent en exemple à la jeunesse française. C'est un pays où on climatise les arrêts de bus ou les stades de foot. Si on regarde l'évolution des émissions mondiales de dioxyde de carbone au cours des derniers 50 ans, On observe que dans le passé, les crises économiques s'étaient marquées par une stabilisation, parfois une diminution, une stabilisation des rejets de dioxyde de carbone. On avait l'effet des chocs pétroliers dans les années 70, qui ont conduit en fait à une forte amélioration de l'efficacité énergétique. Et la courbe rouge, elle traduit l'intensité carbone et en fait l'intensité énergétique finalement de notre économie. C'est-à-dire c'est exprimé en grammes de carbone rejeté par dollar de richesse produite. Et les chocs pétroliers ont conduit en fait à une forte efficacité énergétique à cette période-là et à un gain en termes de richesse produite par tonne de CO2 rejetée. De la même manière, l'effondrement de l'Union soviétique s'était marqué par un palier, crise financière en Asie. La situation elle est différente aujourd'hui, dans la mesure où la crise financière puis économique globale, qui touche surtout les pays développés, ne se traduit pas par une diminution des émissions globales de dioxyde de carbone. Et nous avons les premières estimations pour 2012 qui confirment que nous sommes sur une trajectoire haute au niveau mondial de rejet de dioxyde de carbone, qui s'accompagne d'une stagnation de l'intensité carbone au niveau mondial. Donc on n'a plus de progrès sur la richesse produite par rapport à la quantité de dioxyde de carbone rejetée. Alors pourquoi se focaliser sur le dioxyde de carbone ? Donc en termes d'effet radiatif, on est en 2011 à 40% de plus que le niveau de 1990. C'est celui qui avait été pris pour référence dans les négociations internationales sur le climat. Donc plus 40% d'effet radiatif. Ensuite, si on regarde l'évolution de l'effet radiatif des différents gaz, le dioxyde de carbone apparaît ici en bleu. Il est responsable de presque les deux tiers de l'effet de serre additionnel. On a un effet important du méthane, des chlorofluorocarbures et des autres gaz, mais celui qui pèse le plus lourd et qui a la durée de vie la plus longue, c'est le dioxyde de carbone, qui pèse également sur les écosystèmes marins à travers son effet d'acidification des océans. Alors pensez-vous, cela étant dit, qu'il est possible de maîtriser l'évolution du climat ? Pensez-vous qu'il est possible de le maîtriser dans les prochains 20 ans ? Pensez-vous qu'il est possible de le maîtriser dans les prochains 50 ans ? Pensez-vous qu'il n'est pas possible de le maîtriser ? Alors évidemment, il n'y a pas une réponse simple et non ambiguë à cette question. Simplement, ce que je souhaite montrer, c'est le type de scénario qui est produit à l'aide de modèles numériques de climat que j'ai présentés tout à l'heure. Donc en France, on a deux modèles de climat, celui de l'Institut Pierre-Simon Laplace et celui de Météo France. Et il en existe actuellement, je crois, 28 dans le monde, avec plusieurs modèles de climat développés récemment en Chine, par exemple. Donc pour simuler l'évolution future du climat, on a différents scénarios d'émissions. Ceux que je présente là, c'est ceux qui ont été utilisés jusqu'à l'année dernière. On est sur une nouvelle famille de scénarios qui couvrent en fait cette gamme-là et qui sont utilisés pour le prochain rapport du GIEC, qui en fait sont plus indépendants d'hypothèses, je dirais, socio-économiques. Donc on avait en fait une famille de scénarios qui était considérée comme un scénario optimiste avec une maîtrise rapide des rejets de gaz à effet de serre dans les pays développés, puis dans les pays émergents, avec une diminution des rejets avant la fin du siècle, et puis des scénarios type business as usual, où en fait on suppose qu'on va découvrir suffisamment de nouvelles ressources fossiles pour permettre une augmentation continue des rejets de gaz à effet de serre. Ce scénario rouge n'était pas toujours considéré comme plausible il y a une vingtaine d'années lorsqu'il a été produit, avec le débat sur les réserves prouvées, possibles et exploitables. Alors si on compare avec la réalité des émissions que je vous ai présentées tout à l'heure, donc quand les scénarios ont été produits et sur les 20 ans qui ont suivi, ils étaient assez confondus, on est actuellement en fait parti sur le scénario haut, sur le rythme des rejets de dioxyde de carbone de l'économie mondiale sur les derniers 10 ans. Alors ce que ça donne en termes de concentration en dioxyde de carbone à horizon 2100, si chaque année vous rejetez du dioxyde de carbone, votre concentration va monter. Si vous baissez vos rejets de dioxyde de carbone du fait de la durée de vie, elles vont mettre un certain temps à se stabiliser. Donc dans le scénario bleu, on obtient des teneurs autour de deux fois le niveau pré-industriel, autour de 500 parties par million dans l'atmosphère. Et dans le scénario rouge, on est ici autour de 800 parties par million dans l'atmosphère d'ici à 2100. Alors, c'est considéré comme la gamme des possibles. Alors, je vous invite à consulter le rapport récent de l'Agence internationale à l'énergie, qui en fait prend en compte les infrastructures et les investissements en cours sur les infrastructures industrielles de production d'énergie. Donc l'Agence internationale à l'énergie essaie de voir ce qui est déjà acté, finalement, en termes d'investissement pour les prochains 30 ans, pour évaluer quels sont les scénarios plausibles compte tenu des actions déjà engagées. Alors en termes de projection climatique, et le terme projection, il est important parce que ce sont des calculs théoriques pour lesquels on ne prend pas en compte l'état initial du climat réel, l'état initial par exemple des gyres océaniques, ce sont vraiment des études théoriques. On ne prend pas en compte les autres facteurs que le poids des activités humaines à travers ces scénarios. Donc en particulier, on ne prend pas en compte les cycles de 11 ans ou de plus longue durée du soleil, et on n'intègre pas de manière systématique l'occurrence d'éruptions volcaniques par bouffée ou de temps en temps. Donc sur ces différentes simulations, vous voyez que le scénario le plus optimiste conduit à un réchauffement de l'ordre de 2 degrés de la température moyenne à la surface terrestre, et le réchauffement business as usual correspond ici à un réchauffement de l'ordre de 3,5 degrés à la surface terrestre. L'anomalie de température entre la fin de ce siècle et la fin du siècle précédent, elle est représentée sous forme de carte ici. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est des modèles de climat qui simulent un réchauffement plus marqué sur les continents que les océans, un réchauffement plus marqué autour de l'Arctique, lié en particulier au retrait de la banquise et des zones enneigées. Donc en fait, c'est une simple accentuation des tendances qui sont déjà observées. Ce que je voudrais mentionner également, c'est que dans ce scénario, 3,5 degrés de température globale, donc c'est de l'ordre de 4-5 degrés sur le bassin méditerranéen en Europe de l'Ouest, par exemple, ça veut simplement dire que, par exemple, l'été moyen, à la fin du siècle, c'est l'été le plus chaud qu'on connaît sur les dernières décennies. Quelques degrés en plus, ça veut dire que l'été 2003, c'est l'été moyen. Pour vous essayer de faire deviner ce qui est caché en termes finalement d'adaptation derrière un ordre de grandeur de changement qui reste très modeste, quelques degrés en plus, ça peut toujours sembler faible par rapport à la variabilité du temps qu'il fait d'un jour à l'autre ou d'une saison à l'autre. Donc ce sont des changements en fait qui sont extrêmement importants, avec des conséquences évidemment nombreuses sur les activités humaines ou sur les écosystèmes. Oups. Alors, pour répondre à la question, uniquement basée sur les calculs des modèles de climat, je n'ai pas insisté là-dessus en vous montrant la courbe tout à l'heure, je vais revenir en arrière. Vous voyez que les différents scénarios sont confondus sur les prochaines décennies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le climat va réagir à la composition de l'atmosphère qui existe déjà. Et les inflexions que l'on peut avoir sur la concentration en gaz à effet de serre n'aura des effets que, finalement, 30 ans à l'avenir. Autrement dit, il est possible d'agir sur l'évolution du climat, mais les actions ne portent leurs fruits, finalement, que quelques décennies plus tard. Donc c'est vraiment, en fait, un problème que l'on va se transmettre en héritage, je dirais, de génération en génération. Ce double défi, je pense, de l'action sur notre mode de vie à travers les défis posés par la maîtrise des rejets de gaz à effet de serre, et d'autre part, l'adaptation à un climat qui change. Plus le climat changera vite, plus en fait on transmet en héritage la nécessité de s'adapter, parmi d'autres facteurs liés à la mondialisation, à des conditions environnementales fluctuantes au cours des décennies qui viennent. Alors, on a parlé de climat. Un climat qui change, ce sont des glaciers qui fondent. Cela peut être des calottes de glace qui réagissent et un océan qui se réchauffe. À votre avis, comment le niveau des mers pourrait varier d'ici à 2100? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait monter d'environ 30 cm? C'est l'option A. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait monter d'environ 80 cm? C'est la question B. Ou est-ce que vous pensez qu'il pourrait monter d'environ 2 mètres en moyenne à l'échelle de la planète? C'est la réponse C. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur le niveau des mers actuellement? Donc, les données à partir de marégraphes montrent qu'il a monté de à peu près 18 cm au cours du XXe siècle, en moyenne globale. Ça cache des différences, évidemment, liées au mouvement relatif des surfaces des côtes et de la mer, liées au changement de température des différents bassins océaniques. Cette montée du niveau des mers au XXe siècle, depuis peu, on sait qu'elle est assez inhabituelle. On a maintenant des enregistrements à partir de lagunes, en particulier sur les côtes américaines, dont la salinité va dépendre du niveau relatif des mers et qui permettent de connaître les variations de niveau des mers au cours des derniers millénaires. Et on sait que le niveau moyen des mers a été très stable sur les derniers millénaires. Cette montée récente semble déjà inhabituelle par rapport à un climat, je dirais, interglaciaire relativement stable. Donc, par mesure satellite, grâce à l'altimétrie spatiale, on sait que le rythme actuel, depuis en gros le milieu des années 90, de montée du niveau des mers a changé. Donc, on a eu un changement de pente et on est sur un rythme moyen aujourd'hui de l'ordre de 3 mm par an. Alors, les calculs qui existent avec la maîtrise des rejets de gaz à effet de serre, le scénario optimiste présenté tout à l'heure. Donc, un calcul qui est fait à partir des modèles de climat, de l'effet sur la dilatation thermique des océans, un calcul qui est fait assez grossier sur l'évolution des petits glaciers de montagne, qui représentent dans leur ensemble 60 cm de niveau des mers, puis ensuite un calcul sur le bilan de masse des glaces polaires, quelles précipitations neigeuses au Groenland ou en Antarctique, quelles fontes à la périphérie, et surtout, et ce qui est très difficile à modéliser, quel glissement de ces glaces, quel écoulement de ces glaces au cours de ce siècle. Donc, dans le scénario de maîtrise des rejets de gaz à effet de serre, les calculs montrent des ordres de grandeur de changement de l'ordre de 30 à 60 cm à horizon 2100. Vous voyez, la barre d'erreur, telle qu'on peut l'estimer, reste importante. Dans le scénario business as usual, les modèles de climat se traduisent par un risque de l'ordre de 50 à 80 cm d'ici à 2100. La barre d'erreur telle qu'elle est estimée aujourd'hui, elle est au moins de l'ordre de 20 cm. Ce qui est surtout intéressant de voir là, c'est que sur ce scénario de réchauffement important, à la fin du siècle, le rythme moyen de montée du niveau des mers passerait donc de 3 mm à autour de 10 mm par an. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit bien là, c'est que on enclenche un processus qui ne va pas s'arrêter en 2100 parce que la constante de temps de mélange des masses d'eau océaniques elle est de plusieurs siècles. Donc pour l'instant, on réchauffe les eaux de surface qui vont ensuite réchauffer les eaux profondes. Ensuite, les calottes de glace, quand elles commencent à réagir, on a des phénomènes auto-entretenus. Une calotte de glace dont les bords fondent s'amincit. Le profil de température est tel que quand vous êtes plus bas, il fait plus chaud. Donc vous augmentez l'opportunité de fonte et vous allez entraîner un retrait qui, une fois qu'il est enclenché, va se poursuivre dans une certaine mesure. Et donc la question du niveau des mers, c'est aussi une question quelque part d'une certaine partie de l'irréversibilité des changements liés à l'évolution du climat, avec donc des risques sur un rythme actuel ou peut-être trois fois le rythme actuel au cours de ce siècle, mais aussi quelque part le caractère inéluctable d'une adaptation à un niveau des mers qui continuera à monter sur les siècles suivants. Alors le plan d'adaptation de la France au changement climatique a demandé aux préfets, par exemple, de prendre en compte un risque de l'ordre de 1 mètre, ce qui est extrêmement délicat pour de nombreuses régions côtières, en Bretagne, en Vendée, Languedoc-Roussillon ou Camargue. Les Pays-Bas, en fait, ont essayé de définir qu'est-ce que pouvait être le scénario à haut risque. Et je pense que c'est intéressant d'avoir des limites supérieures, plausibles. Donc, ils ont travaillé sur le rythme maximum d'écoulement des glaces de l'Antarctique, du Groenland, tel qu'on le connaît aujourd'hui. En gros, l'idée, c'est supposer que tous les glaciers s'écoulent à la vitesse maximum connue, ce qui est vraiment un scénario haut, plausible. Et ils arrivent à 1,15 m d'ici à 2100, et puis plusieurs mètres à horizon 2200-2300. Et donc c'est important d'avoir à la fois une fourchette et puis un scénario maximum, je pense, dans le fait de décliner l'adaptation en décisions concrètes. Alors ce que je voulais montrer là, c'est la manière dont ce changement se traduit du côté du Groenland. Et donc sur le Groenland, en fait, il a neigé un petit peu plus dans les années 90, la fin des années 90, c'est la courbe en bleu. Mais on n'a pas une augmentation très nette de la quantité de neige qui tombe. Par contre, ce que l'on voit très nettement, c'est que année après année, surtout été après été, on a une augmentation de la fonte. Vous voyez là, c'est la fonte d'été. Donc les étés plus chauds, depuis les années 90, se traduisent par chaque été une fonte plus importante. Et puis enfin, on a un terme qui augmente, c'est le terme de décharge, qui est le terme noir. Ce sont certains glaciers qui vont s'écouler plus rapidement. Donc ce n'est pas un terme de fonte, c'est un terme de glissement, de déformation de la glace, qui se traduit par un flux d'iceberg et donc de l'eau qui quitte également l'Inland 6. Cette évolution des glaciers du Groenland, elle est en particulier liée, pas uniquement au réchauffement de l'air au-dessus de la calotte, mais à des masses d'eau plus chaudes qui rentrent dans les fjords et qui, en fait, attaquent les langues de glace flottantes par en dessous, en augmentant la fusion sous ces langues de glace. Et donc, voilà le type de données dont on dispose. C'est un mélange d'observations de terrain, d'observations de gravimétrie spatiale, ici, en noir, ce qui permet de valider le calcul, et puis de modélisation de la circulation atmosphérique régionale. Et le terme qui est déduit, c'est le terme de glissement, en fait. C'est un terme qui est déduit des observations de la masse totale en soustraction des différents termes que l'on peut quantifier par chacune des étapes d'observation. Donc, la réponse à la question, si on agit 30 cm, en gros, si on n'agit pas, peut-être 80 cm, et puis les 2 mètres, c'est quelque chose qui est tout à fait plausible, mais à horizon de plusieurs siècles à l'avenir, avec des incertitudes qui restent importantes. Alors, je termine sur le panorama des climats qui changent. À votre avis, un climat plus chaud sera-t-il, premièrement, sans effet sur le cycle hydrologique ? C'est surtout l'effet de température qui va dominer. Un climat plus chaud sera-t-il plus sec ? Pensez-vous qu'il sera plus sec ? Ou un climat plus chaud sera-t-il plus humide ? Alors, la seule réponse correcte, c'est la première. Enfin, je veux dire, il y aura des effets sur le cycle hydrologique. Et si je dois résumer ce que montrent les modèles de climat, ce qu'ils simulent, c'est que ce qui est sec sera plus sec et ce qui est humide sera plus humide, à la fois au niveau des saisons et au niveau des structures spatiales. C'est lié à 2 choses. C'est lié à simplement la thermodynamique de l'atmosphère et c'est aussi lié à sa circulation qui va changer. Alors je le présente sous 2 illustrations. La première illustration, elle montre un article récent qui montre pour chaque endroit du globe une analyse des très fortes précipitations. C'est-à-dire chaque année, sur un endroit donné, par exemple Paris, on va regarder le jour où il a plu le plus, et on va regarder si ce cumul de précipitations sur 24 heures augmente au cours des derniers 50 ans. Donc c'est pas la totalité de la précipitation, c'est les événements de très fortes pluies. On va le regarder sur un jour, on va le regarder sur 5 jours. Alors, ce que vous avez en haut, ce sont les observations. Dans certaines régions, on n'a pas assez d'observations ou pas assez précises pour faire le calcul. Donc, vous voyez que dans l'Amérique du Nord, dans l'Europe centrale, dans le centre de la Russie, certains secteurs d'Asie du Sud-Est, d'Asie du Sud, on détecte une augmentation tout à fait significative, de l'ordre de 0,5% par an, de la quantité des très fortes précipitations. Et en dessous, vous avez le résultat de modèles de climat qui prennent en compte les facteurs naturels et anthropiques sur la même période. Et vous voyez que, à côté du changement de température, les modèles de climat simulent aussi une augmentation des événements de forte précipitation dans les mêmes zones que là où c'est observé. C'est assez frappant. Mais, par contre, qui n'ont pas du tout l'intensité de l'augmentation telle qu'elle est observée. Pourquoi ? Parce que les processus de petite échelle, précipitations, nuages, ne sont pas forcément représentés de manière réaliste à l'échelle à laquelle les simulations climatiques sont conduites. Peut-être le chiffre à retenir, c'est 7% d'humidité en plus qui peut être contenue dans l'atmosphère par degré de réchauffement global. Donc ce qu'on voit là, c'est que finalement ce réchauffement, potentiellement, il expose à un risque d'événements extrêmes de fortes pluies qui n'auraient pas été le même sans ce réchauffement. Je pense que c'est un point important et qui demande peut-être à repenser la notion de catastrophe naturelle. Si l'aléa météorologique a un impact démultiplié par le réchauffement climatique d'origine humaine. Le deuxième exemple que je veux donner, c'est le changement de précipitation en pourcentage de pluie pendant la saison sèche par degré de réchauffement global. C'est tous les scénarios de changement futur cette fois. Et on va regarder simplement, ramener à 1 degré de réchauffement, quelle structure sur les changements de précipitation. Et ce que vous voyez, c'est vraiment la marque de la structure de l'atmosphère depuis les régions équatoriales jusqu'aux régions de climat méditerranéen. En gros, l'atmosphère, elle a des cellules avec, au niveau de l'équateur, de l'air chaud et humide, l'air monte, et ensuite des cellules d'air froid et sec qui redescendent et sont à l'origine des climats désertiques méditerranéens. D'accord ? Donc ces cellules qu'on appelle les cellules de Hadley, les modèles de climat simulent un élargissement vers les pôles dans un climat plus chaud. Donc ça veut dire en fait plutôt une augmentation des précipitations dans la bande équatoriale, mais par contre une diminution de ces précipitations dans la saison sèche de l'ordre de 10% par degré de réchauffement global, 5 à 10%, dans des zones en fait de climat extrêmement attractif, Mexique, tout le pourtour méditerranéen, certaines régions d'Asie du Sud-Est, en Australie, Madagascar, Afrique du Sud, certaines régions d'Amérique du Sud, et des régions extrêmement densément peuplées, avec parfois un usage de l'eau qui est déjà supérieur au renouvellement par la précipitation actuelle. Et à mon sens, ce sera l'un des principaux problèmes d'adaptation par rapport à ce climat qui change, cette modification de la répartition des précipitations en fonction des saisons et en fonction des latitudes. Alors on a des incertitudes importantes, tout ce qui touche aux phénomènes de petite échelle, comme les tempêtes, tout ce qui touche à l'attribution d'un événement ponctuel, comment relier un événement isolé au changement climatique, c'est quasiment impossible, tout ce qui touche aux interactions entre nuages et aérosols, à l'impact du cocktail de particules de pollution, en particulier autour de certaines grandes métropoles. Il est encore très difficile de savoir quelle est la variabilité d'un climat plus chaud. Est-ce qu'un climat plus chaud, c'est un climat où les régimes de temps sont plus variables d'un jour à l'autre? Est-ce que c'est un climat où, qui est plus variable d'une année à l'autre ou moins? On n'a pas encore de réponse précise, satisfaisante à ces questions. Et puis on a ces questions également de rétroaction du cycle et du carbone qui peuvent amplifier l'impact des activités humaines pour un scénario d'émission donné. Et si on prend par exemple le plan d'adaptation de la France au changement climatique, on voit en fait que ces scénarios, ces projections climatiques, elles ont potentiellement des impacts majeurs sur de nombreux secteurs d'activité. Sur les ressources en eau, par exemple, dans le sud-ouest de la France, sur les risques naturels et les assurances. Donc moi, j'habite dans l'Essonne. Nous sommes construits sur un plateau argileux, ma commune. Et depuis le milieu des années 90, nous avons des dégâts importants sur les bâtiments liés à des sécheresses plus importantes, et donc des gonflements et des retraits des zones argileuses. Les nouvelles constructions peuvent être conçues pour résister sur des micropieux, par exemple, mais on a un surcoût important sur l'entretien des infrastructures et des bâtiments existants qu'on ne peut pas remplacer. On a également des risques potentiels sur certaines infrastructures, par exemple dans les régions côtières, le réseau des routes nationales, certaines voies de chemin de fer qui sont vraiment à proximité des côtes, des impacts potentiellement importants à la fois sur l'offre d'énergie, la production d'énergie hydraulique, elle va être affectée par l'aléa et l'évolution du climat, et puis également sur la demande d'énergie qui pourrait baisser un peu en hiver, mais augmenter fortement en été, avec le développement très important de la climatisation, par exemple. Des impacts sur, évidemment, l'agriculture ou la pêche, et je vous montre nos vignobles nationaux, qui mènent déjà une réflexion sur leur adaptation à un climat différent, qui joue sur la qualité du vin, la quantité de vin, le taux d'alcool dans les vins. Des impacts importants sur les forêts, et la gestion des forêts, elle se fait à l'échelle du climat. C'est-à-dire que quand on reboise, c'est à une échelle de 30 ans à 100 ans, et donc c'est déjà intégré dans la manière de gérer certaines de nos forêts. Des impacts sur le tourisme, l'attractivité de certaines régions, les écosystèmes, la biodiversité, la qualité de l'air, et puis évidemment la santé. Et donc je finis en fait avec cette dernière question. Pensez-vous que vos activités personnelles, professionnelles, n'ont pas de lien avec le climat ? Agissent sur les rejets de gaz à effet de serre, d'une manière ou d'une autre ? Et peuvent être affectées d'une manière ou d'une autre par les impacts du changement climatique. Et donc cette dernière question, c'est pour passer le relais de défis scientifiques qui consistent à mieux comprendre, mieux connaître ce système climatique, à aussi des défis politiques par rapport à la fois à l'atténuation et puis l'adaptation à un climat qui change. Merci de votre attention.
Bien, donc merci pour cet exposé très pédagogique. Hein, je crois que c'est ce qui ressort en fait de ce. Et je suis sûr que il suscite beaucoup de questions. Donc
merci pour cet exposé très intéressant. Comme gaz à effet de serre, on doit pouvoir également citer H2O tout de même.
Oui, bien sûr.
Est-ce que dans vos modèles, on ne voit pas très bien l'interaction éventuelle, disons des modifications de la sécheresse par exemple, est-ce que ça impacte en plus ou en moins le climat ?
Alors en fait, quand vous faites une perturbation radiative, très rapidement vous allez avoir un ajustement à la fois donc, du profil de température de l'atmosphère et du contenu en vapeur d'eau qui va jouer donc sur la vapeur d'eau comme gaz à effet de serre lui-même, mais également sur la formation de nuages. Et donc si on regarde par exemple les différentes rétroactions qui sont à l'œuvre lorsque vous rajoutez des gaz à effet de serre tels que simulés par des modèles de climat, vous voyez que la réponse directe de Planck, c'est une réponse qui amplifie, la vapeur d'eau et le profil vertical de température également, de même que les rétroactions nuageuses. Donc ce sont en fait des facteurs amplificateurs au niveau global, hein, même de la température globale, hein, qui sont importants, et le phénomène stabilisateur, c'est l'océan qui va pomper une partie de cette chaleur-là. Et quand on regarde en fait où sont les principales incertitudes, vous voyez que sur la réponse de Planck, la dispersion entre modèles est faible, ce qui est rassurant. En ce qui concerne l'albédo de surface, c'est-à-dire le retrait des surfaces enneigées, englacées, c'est aussi faible parce que la surface couverte est petite. Par contre, vous voyez que la rétroaction de la vapeur d'eau, elle correspond à une dispersion importante, et c'est lié en fait aux différences de circulation et de transport de vapeur d'eau simulées par les différents modèles. La rétroaction liée à l'absorption par l'océan, elle est aussi importante de la même manière sur la circulation océanique. Et enfin, la principale incertitude, elle porte sur la rétroaction nuageuse. Cette rétroaction nuageuse, elle a des conséquences au niveau global sur la réponse du climat à une perturbation donnée, mais elle a également des conséquences sur le fait qu'il y ait ou non précipitation localement, puisqu'on peut avoir une atmosphère qui contient davantage de vapeur d'eau sans qu'il y ait nécessairement précipitation et condensation. Voilà. Donc les travaux qui sont en cours, c'est d'abord observer, et donc des études, en particulier à partir de systèmes LIDAR au sol et embarqués par des satellites, pour imager en trois dimensions les interactions rayonnement-nuages et aérosol d'ailleurs. Et à partir de ces observations, améliorer la représentation de ces processus. Donc, j'espère avoir répondu en partie à votre question.
Merci. Deux commentaires. Je suis toujours épaté par le fait qu'on puisse donner une température moyenne de la Terre. Est-ce que c'est pas mélanger des petits pois et des carottes ? Et deuxièmement, et les vaches ?
Oui. Alors sur la température moyenne de la Terre, je dirais que c'est réduire le climat à une seule variable, c'est évidemment caricatural. Et nous, on travaille sur des bases de données finalement à trois dimensions, latitude, longitude et puis altitude en fonction du temps. La température moyenne, je dirais, à la surface d'une planète, elle a un sens en termes d'équilibre radiatif. Quand on parle de climat terrestre, je dirais que c'est la même image que quand vous avez votre chauffage central qui est régulé à partir d'un capteur de température dans une pièce. Vous allez avoir un radiateur d'un côté, il va faire chaud. Vous allez avoir une fenêtre de l'autre, il va faire froid. Au milieu de votre pièce, vous allez avoir une température, vous allez considérer peut-être comme la température moyenne, ce qui n'empêche pas de forts gradients. Si vous montez le chauffage, la température moyenne va monter. Vous aurez toujours de forts gradients entre votre radiateur et votre fenêtre. Et c'est exactement le même sens qu'a l'indicateur température moyenne à la surface terrestre. Ça va dépendre essentiellement des échanges radiatifs. Là où on a une différence fondamentale, c'est quand on passe de l'échelle de la température... En fait, en toute rigueur, ce serait la température moyenne de l'atmosphère terrestre qu'il faudrait considérer physiquement, qu'on ne peut pas estimer pour les périodes anciennes aussi précisément que la température de l'air à 2 mètres, qui est celle observée par les réseaux météorologiques. Y a une différence fondamentale entre l'échelle, je dirais, globale, où le transport par les courants marins et par les vents est effacée. Et l'échelle régionale, où on a un effet d'équilibre radiatif, mais surtout un effet de transport lié en fait au vent. Et donc on a vraiment des approches différentes pour comprendre ce qui contrôle le climat, par exemple, de l'Europe de l'Ouest, et de ce qui contrôle le climat planétaire. À l'échelle planétaire, c'est vraiment les équilibres radiatifs qui dominent, avec l'inertie du système. À l'échelle locale, ça va être les températures des mers voisines et le type de circulation atmosphérique. Et les deux interagissent. Ah oui, sur les vaches. Donc, je vous ai montré tout à l'heure une forte augmentation de la teneur atmosphérique de différents gaz à effet de serre, en filigrane en fait. Donc vous aviez là l'augmentation de la teneur en dioxyde de carbone et puis en dessous celle de la teneur en méthane qui a doublé par rapport au niveau pré-industriel. Donc en quoi les activités humaines contribuent à des rejets de méthane ? Donc c'est la fermentation des déchets organiques, c'est les fuites sur les réseaux de gaz dans les mines de charbon, et puis c'est également donc l'élevage intensif. On a, je crois, 1 milliard de vaches, si je ne me trompe pas, à la surface de cette planète. Et donc, il se produit une fermentation et donc l'émission de méthane par les éructations des vaches est une source tout à fait significative de gaz à effet de serre. Ce qui fait que, alors, ce que je voulais préciser là-dessus, c'est que c'est difficile de comparer l'impact sur le climat de différents types de gaz qui ont des durées de vie différentes, longues pour le dioxyde de carbone, plus brèves pour le méthane. Le méthane, en fait, au bout d'une dizaine d'années, il va être photodissocié. Il va donner en fait des molécules de CO2 à terme. Et donc on a en fait des méthodes à partir de calculs de transfert radiatif et de durée de vie pour convertir le pouvoir radiatif du méthane en pouvoir radiatif d'équivalent CO2, ce qui nous permet de comparer finalement l'impact sur le climat de différents gaz. Alors faut-il tuer les vaches ? Je vous laisse juger. Cela étant, si vous voulez maîtriser l'effet de serre lié à votre alimentation, il y a toute une question à mener sur la manière dont vous élevez et vous nourrissez les ruminants. Et puis sur le type d'alimentation que vous mangez. C'est une discussion que j'ai eue hier avec une collègue indienne, hindoue et végétarienne, je dois dire.
Je voudrais revenir à une échelle de temps plus globale, liée à l'astronomie et les climats. Parce que, si vous voulez, je suis géologue et je m'intéresse, aux périodes passées. Enfin, je fais partie d'un groupe français du Paléozoïque. Et donc, on s'intéresse au climat, je suis secrétaire, au climat entre, en gros, 600 millions d'années, 250 millions d'années. Et, si vous voulez, j'ai fait un peu une analyse propre, théorique, sur les facteurs astronomiques qui peuvent influer déjà. Bon, j'ai pas eu une approche, je dirais, très complexe par les nuages, tout ça. Simplement, je me suis intéressé aux paramètres de l'irradiation de la Terre par le Soleil. Donc, la puissance, avec les facteurs, les constantes solaires, l'inverse de l'albédo par l'absorption, l'albédo A à moins A. La distance Terre-Soleil. Alors, par des petits calculs, pas de simulation numérique très complexe, petits calculs, j'ai montré que c'était surtout, si on peut supposer évidemment la distance Terre-Soleil constante, ce que je voudrais qu'on en discute avec M. Lascar, je montre que pour expliquer, si vous voulez, dans ces grands temps géologiques, puisqu'il y a une grande glaciation à l'Ordovicien, au bout de 100 millions. Oui. Si vous voulez, je voudrais avoir votre avis sur quelle peut être la cause de l'évolution du climat à ces époques. Puis une question que je pose à M. Lascar, est-ce qu'on peut supposer que la distance Terre-Soleil est constante jusqu'à ces temps de 600 millions d'années ? Ou comment peut-on prédire ou calculer la distance Terre-Soleil pour essayer de faire varier la puissance sur l'influence sur le climat? Voilà.
Alors en fait, j'ai des collègues de mon laboratoire qui s'intéressent au climat de cette période spécifique, en particulier Gilles Rammstein et son équipe. Et donc, je vous inviterai à le contacter directement. Donc, il s'y intéresse à partir de synthèses d'observation, mais aussi à partir de la modélisation du climat, avec des modèles très simples aussi, et puis plus complexes, pour comprendre justement les mécanismes de ces glaciations anciennes en relation avec les points que vous avez soulignés, en particulier l'évolution de la composition de l'atmosphère, l'albédo et puis les changements de l'ensoleillement.
Juste pour répondre à la petite question, là, sur la, a priori, la distance moyenne, c'est-à-dire les demi-grands axes des planètes, ne change pas sur des durées comme ça, qui sont relativement courtes, de 500 millions d'années. Quoi. Pour moi, c'est court. Mais je pense que Valérie a bien montré au début justement la distinction entre la partie qui vient du forçage de l'insolation et puis les parties autres, en fait, dans les discussions. Bon, ben, je pense qu'on a pris quand même beaucoup de retard et que là, il va falloir, malgré toutes les questions que l'exposé suscite, pleurer.